mère de famille, Léon Binet. Léon Binet, membre de l'Académie des sciences, de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie vétérinaire, est évoqué par son fils, Jacques-Louis Binet.
Mon père n'aimait pas les familles médicales parce qu'il avait lutté lui-même contre les familles médicales. Donc il ne voulait pas que la génération qu'il suive représente un début de dynastie. Alors il était très heureux que mon frère soit chirurgien. Et puis ça avait une réputation, le chirurgien, c'était le héros de la médecine. Il m'a dit, moi ça me gênerait un peu que tu sois médecin, mais si tu le veux, tu le seras, tu fais ce que tu veux. C'est pas ma vie, ça sera la tienne. Je suis resté un an en hypocagne, j'ai vu que je ne serais jamais normalien, et j'ai fait ma médecine et j'ai eu beaucoup de chance de la faire. Je suis devenu hématologiste alors que de son temps, cette spécialité des maladies du sang n'existait pas, puisqu'on connaissait très mal les maladies sanguines.
Léon Binet, médecin académicien, né en 1891 et mort en 1971, était titulaire de la chaire de physiologie à la faculté de médecine de Paris et chef de service de l'hôpital Necker. Il créa dans les années 30 un service de réanimation respiratoire, une nouveauté dans le monde hospitalier. Autre particularité, il fonda en 1961 le premier service de gérontologie dans le cadre de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Jacques-Louis Binet, un des trois fils de Léon Binet, évoque pour nous quelques souvenirs de famille.
La première chose, c'est que j'ai eu une enfance très heureuse. J'étais très protégé. Et ça, c'est essentiellement lié à mon père, qui avait des idées simples, mais auxquelles il tenait beaucoup. Premièrement, il faut non pas travailler, mais être premier. Parce qu'autrement, il n'y aura jamais de place pour vous. On travaillait beaucoup et j'ai eu la chance d'être un peu protégé de cette lourdeur du travail parce que j'étais le troisième, que mes frères étaient punis quand ils étaient seconds, ce qui était parfaitement ridicule, il fallait être premier. Et quand je suis arrivé, comme mes frères finissaient toujours par être premier, moi on s'en fichait un peu, donc j'ai vécu faussement une certaine rigueur du travail. Alors ils ne le faisaient pas tout seuls, on ne pouvait pas parler de mon père sans parler de ma mère parce qu'elle était là et qu'elle nous faisait répéter nos leçons, et qu'au fond, comme toutes ces petites bourgeoises, elle n'avait pas beaucoup de formation, donc elle apprenait la culture, elle apprenait le français, elle apprenait la littérature française, au contact de nous, c'est-à-dire des textes que nous apprenions. Voilà quel était le cadre de mon enfance, une atmosphère de petite bourgeoisie studieuse, des vacances où on s'ennuyait beaucoup, et l'ennui n'a pas que des défauts, on apprenait à lire. Et mon père venait nous voir, il ne s'intéressait pas du tout à nos lectures, et il voulait nous apprendre, et ça c'est une notion qu'on trouvera plus tard, qu'est-ce que c'était que la nature ? Moi la nature m'ennuyait. Lui il était imbattable sur la nomenclature de la nature comme fils d'instituteur. Telle feuille, ça ne pouvait appartenir qu'à tel arbre. Telle fleur, c'était telle essence, si vous voulez. Il était imbattable là-dessus. Et tel animal, combien ils avaient de portée par an, il avait gardé sa formation de fils d'instituteur. Alors, échec absolu pour nous l'apprendre, aussi bien mes frères que moi. Chez moi, on parlait beaucoup de guerre, parce qu'il avait été très longtemps à la guerre de 14, comme toute sa génération. Il était médecin d'un régiment à Verdun, et j'ai retrouvé un petit livre qu'il avait écrit à Verdun, vous vous rendez compte, à Verdun, dans la boue, au milieu des rats, pour qu'est-ce que doit savoir faire un médecin, un petit médecin d'un régiment, on appelait ça un médecin auxiliaire. Il n'était pas interne, il était externe, donc il n'avait pas beaucoup de titres médicaux, mais la guerre était là. Et alors dans le livre, on décrit comment épurer l'eau, comment lutter contre le froid, comment lutter contre les rats, qu'est-ce que c'était qu'une maladie, quand on était jaune, est-ce que c'était grave ou pas grave. Des choses extraordinairement primaires qui relevaient presque plus de l'hygiène que de la médecine. Et pour des raisons obscures, alors qu'il n'y avait plus de guerre, quand j'ai connu mon père, lui, il l'évoquait très souvent. En 14, voilà ce qu'on fait, et ne m'ennuie pas avec ta fausse grippe que tu as aujourd'hui. Voilà les raisonnements. Alors, la faculté de médecine a un énorme rôle dans sa vie. Énorme rôle dans sa vie. Il est devenu très jeune professeur. Il était agrégé alors qu'il était encore interne. Et à ce moment-là, on était agrégé tard, il n'avait que 40 ans, il est devenu professeur très rapidement. Il a vraiment vécu pour la faculté. Cette vie à la faculté s'est traduite par un peu un abandon de la médecine, parce qu'on ne pouvait pas tout faire dans la journée. Il allait à l'hôpital très tôt le matin, mais il était toujours à midi à la faculté. Après avoir pris un déjeuner sommaire, il restait jusqu'à 7 heures du soir. Alors la grande cérémonie à la faculté, la grande fête, le grand jour, c'était ce qu'on appelait la leçon inaugurale. Il y avait une chaire assez singulière qui était la physiologie, qui est donc la science des choses normales. Et sa génération était très marquée par le retour à la normalité. Vous respirez mal, eh bien il faut qu'on vous traite jusqu'à ce que vous sachiez respirer bien. Donc lui était professeur de physiologie et il a fait une leçon. J'étais pas né. Je ne peux pas en parler. J'ai relu les textes. Ça me paraissait très solennel, peut-être un peu ennuyeux. Il y avait quand même des idées clés. Les idées clés, c'est que la médecine, la maladie n'était pas séparée du normal. Entre le normal et l'anormal, c'était le même monde. Et on ne pouvait pas soigner des gens si on ne savait pas ce qui se passait à l'état normal. Ça, c'était la première idée clé. Et que c'était aussi vrai pour toutes les disciplines de la médecine. Aussi bien la médecine interne, le malade, que la chirurgie. On ne pouvait pas bien anesthésier si on ne savait pas ce que c'était, que faire respirer un malade qui s'endort, si on ne s'occupait pas des soins post-opératoires. Donc pour lui, la physiologie, c'était la science fondamentale, alors qu'à la faculté, la science fondamentale, c'était l'anatomie. On concourait sur l'anatomie, c'est-à-dire la nomenclature et pas toujours la fonction des muscles, du squelette et du corps. Mais la fonction, qui est donc la physiologie, passait après l'anatomie. D'où d'ailleurs un avantage, ça formait d'excellents chirurgiens qui savaient ce que c'était qu'un muscle et à quoi il servait et qu'est-ce qu'il fallait faire quand il était sectionné. Mon père n'aimait pas les familles médicales parce qu'il avait lutté lui-même contre les familles médicales. Donc il ne voulait pas que la génération qu'il suive représente un début de dynastie. Alors il était très heureux que mon frère soit chirurgien. Et puis il trouvait que chirurgien, c'était plus chic que d'être professeur de physiologie. Professeur de physiologie, on opère des rats, des souris, des chiens. Chirurgien, on opère des hommes. C'est plus noble quand même. Et puis ça avait une réputation, le chirurgien, c'était le héros de la médecine. Il m'a dit, moi ça me gênerait un peu que tu sois médecin, mais si tu le veux, tu le seras, tu fais ce que tu veux. C'est pas ma vie, ça sera la tienne. Ça, c'était son côté assez généreux. Et toujours essayer de se placer du côté des autres. En disant, vous avez eu une vie dorée par rapport à la mienne. Il était fils d'instituteur, pas beaucoup de fric, vous voyez. Bon, nous habitons le 7e arrondissement, on avait quand même une vie de petit bourgeois à protéger. Ça fait partie de ses réflexes-là, d'essayer de raisonner comme nous devions raisonner. Et pas tout à fait comme lui allait raisonner. Et puis il lui dit, tu fais ce que tu veux. Je suis resté un an en hypocagne, j'ai vu que je ne serais jamais normalien. Et j'ai fait ma médecine et j'ai eu beaucoup de chance de la faire. Mais j'ai choisi une discipline qui n'était pas du tout la sienne. Ça, il y tenait beaucoup. Il ne le savait pas. Je suis devenu hématologiste alors que de son temps, cette spécialité des maladies du sang n'existait pas puisqu'on connaissait très mal les maladies sanguines. Il aimait beaucoup qu'on le flatte, je crois. Mais il n'aimait pas qu'on flatte ses enfants. Ce qui était, à mon avis, un très bon réflexe. Parce qu'il trouvait ça ridicule. Donc, j'ai fait mon service militaire en Algérie. Il était doyen. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de médecins qui ne voulaient pas aller en Algérie. Et qu'elle allait le voir pour avoir une dispense. Et moi, j'ai dit, je vais en Algérie comme tout le monde. Ça, il m'a remercié. Il m'a dit, au moins, j'aurai une dispense à ne pas faire. C'est la tienne. Et puis là-bas, je me suis conduit correctement. Et ça, il était assez fier. Alors, je l'ai su après, parce que je n'étais pas là. Il était très fier de mon frère chirurgien. Et puis l'autre, qui était le rebelle, qui ne voulait pas être médecin. Il y avait une convention dans la famille. On ne parlait jamais de médecine à table. Ça, c'est jamais. Sauf, des leçons inaugurales. Bon, le reste, on ne parlait pas de médecine à table. Et mon frère est rentré à l'ENA, et là, il était très fier de lui. Voilà. La fin fut, à mon avis, sinistre. Parce que j'ai connu quand même quelqu'un d'un peu au-dessus de nous, avec lequel nous avions des rapports affectifs très étroits, mais une certaine distance par rapport à son père. Son père, ce n'était pas un copain. C'était son père. C'est assez différent, si vous voulez. À la fois sévère, mais très généreux. Mais il était dans son monde, et son monde, il le dirigeait assez bien. Peu à peu, ses fonctions intellectuelles se sont altérées. Et est apparue l'horreur qu'était la sénescence, et qui a duré très longtemps. C'est-à-dire une sorte de faux coma où il était ailleurs, et puis il reprenait conscience. Et quand il reprenait conscience, alors furieux d'avoir été à l'hôpital. Pourquoi j'étais à l'hôpital ? Et avec des notions assez singulières, en disant « L'hôpital, c'est pas pour moi, c'est pour des gens qui sont très malades. » Et ma mère lui disait « Mais t'étais très malade. » Non, j'étais pas vraiment malade. Et puis au fond, mon lit devait servir à quelqu'un d'autre. La médecine qu'il a faite était une médecine de cette époque. Songez qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc, c'était toujours la lutte. Ces livres, c'était comment lutter contre l'asphyxie, contre l'insuffisance respiratoire. Ça avait un côté un peu garde 14. C'était un peu toujours Verdun. Il fallait lutter contre quelque chose qui n'était pas souvent très, très bien défini. Et il était très marqué par cette médecine de lutte. Et alors qu'on ne pouvait pas vraiment réanimer, il a été un des précurseurs de la réanimation. Alors il a inventé un appareil, je ne sais pas s'il a jamais marché, pour faire respirer les patients atteints de poliomyélite, qui était à ce moment-là une maladie très grave, il n'y avait pas de vaccin, qui était une machine qui comprimait le thorax pour le forcer à respirer, puisque les muscles ne pouvaient pas le faire. Ça l'intéressait beaucoup. Ça s'appelait un poumon d'acier. Et puis après, alors qu'il commençait à sentir venir la sénilité, il a été un des fous créateurs de la gériatrie, puisqu'il n'y avait strictement aucun traitement. Mais il sentait que le fait de vieillir, de moins bien marcher, ça devait correspondre à des mécanismes qu'il était incapable, alors qu'il était physiologiste, d'étudier, parce qu'il n'en avait pas les moyens. Mais il était, à la fin de sa vie, il était très marqué par cette médecine du vieillard, jusqu'au moment où il était lui-même un vieillard, plus qu'un vieillard. Parce que maintenant, les vieillards peuvent être très jeunes, où il était vraiment sénescent.
Jacques Lubinet, trois mots pour qualifier votre père.
Générosité, travail et famille. Il était très lié à sa famille, y compris le petit cousin emmerdant qu'on avait, qu'il fallait dont on s'occupe. Voyez. Ça, la famille, c'était sacré et on n'avait pas le droit de s'en séparer.